es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación en el evento. Mi nombre es Diana Mejía.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission consacrée aux marées noires. Au large de Chennai, au sud de l'Inde, fin janvier, une collision entre deux navires citernes a libéré 100 tonnes de pétrole qui sont venues polluer le rivage sur une quarantaine de kilomètres. Des photos édifiantes d'Indiens englués jusqu'aux genoux dans le pétrole ont été publiées, vaquant sur les plages et dans les rochers, armés de simples seaux en plastique pour faire face au désastre. 21 incidents pétroliers de plus de 700 tonnes ont été dénombrés en 2016, alors 50 ans après le naufrage du Torrey Canyon au large des côtes britanniques. Comment en finir avec les marées noires et comment réagir plus efficacement en cas de catastrophe? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en studio avec Jackie Bonnemain, fondateur et président des Robins des Bois, une association de protection de l'homme et de l'environnement. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également en ligne depuis Brest avec Christophe Rousseau, directeur adjoint du CEDRE, une association qui a pour objectif d'améliorer la préparation à la lutte contre les pollutions accidentelles. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous depuis Brest.
Bonsoir. Ah vraiment, nous sommes trop gâtés et ça commence à suffire. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des pétroliers au large et qui s'échouent sur nos côtes bretonnes pour abîmer ce que nous avons de plus beau et ruiner la saison des pêcheurs. Nous ne sommes pas loin du record du monde de pollution depuis ce matin. Avec ce pétrolier libérien, dont l'armateur est américain et l'équipage italien, ce pétrolier c'est l'Amoco Cadiz. C'est le quatrième à endommager la Bretagne en 11 ans. Avant lui, il y a eu le Torrey Canyon, l'Olympic Braverie, le Bolen. Et la Bretagne en a assez d'être la côte de ses naufrages, de ses gros bâtiments, le dépotoir du pétrole brut.
Jackie Bonnemain, avec Robin des Bois, votre association a vous bataillé depuis les années 80, entre autres pour qu'il n'y ait plus d'incidents pétroliers. Vous êtes d'ailleurs particulièrement impliqué à l'occasion du procès sur le naufrage Erika qui a sombré en 99 au large de la Bretagne. Vous étiez alors porté partie civile. Alors la législation depuis a beaucoup évolué ces 50 dernières années, on va y revenir, mais pourtant il y a encore une vingtaine d'accidents de forte importance par an. Comment vous réagissez à chaque fois que vous voyez ces nouvelles images de plages recouvertes de pétrole et d'oiseaux mazoutés?
Eh bien, si la marée noire se passe en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Nigeria, premièrement, on la sent. Parce que l'odeur du fioul, elle est mémorisée, si on peut dire, dans notre cerveau depuis maintenant des dizaines d'années. Donc, on la sent. Et puis, quand on voit les images, on se rend compte que encore dans le sous-continent indien, les gens ramassent effectivement, comme vous l'avez souligné, les résidus à main nue, en Bermuda, et 50 ans après le Torrey Canyon, en Inde, c'est seulement 3 semaines après que des articles dans les journaux disent « Mais attention, c'est dangereux pour les collecteurs, ils vont attraper des allergies, des problèmes respiratoires et peut-être à terme, si ce sont des personnes fragiles, le cancer. »
Et les conséquences environnementales également pour les animaux, là vous parlez des collecteurs?
Eh bien sûr, les hommes, les femmes, des pêcheurs, et puis les animaux. Je mettais pas les animaux en premier parce que il faut une certaine hiérarchie, mais il faut pas s'intéresser qu'aux animaux volumineux, spectaculaires, chers à nos cœurs. Il y a aussi des hippocampes ou des concombres de mer, c'est-à-dire des espèces beaucoup plus anonymes, beaucoup plus effacées, mais très importantes pour les pêcheurs qui sont touchés.
Christophe Rousseau, vous êtes le directeur adjoint du CEDRE, une association donc créée à la suite du naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978, au large aussi de la Bretagne. Votre travail est d'améliorer la préparation à la lutte contre les pollutions des eaux. Alors l'ITOPF, qui est l'organisme d'intervention internationale en cas d'incident pétrolier, est intervenu 21 fois en 2016. C'est beaucoup, mais c'est un chiffre qu'il faut contextualiser aussi, puisqu'il est en baisse drastique depuis les années 90, notamment grâce à l'évolution du droit maritime. En 40 ans, il y a 6 fois moins d'accidents et des volumes de pétrole déversés dans la mer beaucoup moins importants. Alors, quelles ont été les mesures fortes qui ont permis de réduire le nombre de catastrophes en termes de prévention, notamment Christophe Rousseau?
Elle porte ces améliorations non seulement sur la
construction des navires, qui ont beaucoup évolué, mais également sur les règles de navigation, la formation des équipages, les contrôles dans les ports. Alors ça, c'est pour l'organisation internationale, et c'est très important que la majorité des États côtiers soient dans cette organisation, parce que si un État sort de cette organisation et prend des mesures régionales, ça veut dire qu'on va repousser ailleurs les navires un peu moins bons, les capacités d'intervention, hein, on l'a vu à de nombreuses reprises. Donc c'est très important que l'ensemble de la planète maritime soit dans la même organisation. Il y a aussi, en complément de ça, des mesures des États régionaux ou locaux, ou en termes de coopération plus resserrée, qui ont rajouté des mesures de contrôle de navigation par les États des ports, etc. Donc il y a des mesures internationales et puis il y a des mesures locales qui font qu'aujourd'hui, on est passé dans les années 78-79, on a été jusqu'à presque 700 000 tonnes déversées par des pétroliers. Aujourd'hui, les pétroliers, ils déversent pratiquement plus rien. Les pétroliers ne sont plus la première source de pollution et de loin, mais par contre, le nombre d'incidents de navigation au sens large, ces dernières années, augmente.
Avec des amendes très lourdes et dissuasives depuis ces dernières années, est-ce que ça a été un facteur aussi clé pour que les pétroliers s'investissent pour changer leur flotte?
Il y a deux choses. Il ne faut pas mélanger les pollutions accidentelles, c'est-à-dire des bateaux qui se cassent ou qui déversent du pétrole de façon accidentelle suite à des collisions ou des tempêtes, etc. Et puis les rejets illicites, donc ça c'est autre chose. Ces rejets illicites, en Europe en tout cas, sont très contrôlés. On a au niveau de l'accord de Bonn, les pays borduriers de la mer du Nord, il y a un accord qui permet de survoler en permanence cette zone. En France, depuis la loi Perben, on a des possibilités de déroutement des navires qui sont pris en flagrant délit, qui permet d'avoir une caution qui amène les juges ensuite à porter des jugements très sévères, plus sévères qu'avant, mais surtout avoir déjà cette caution qui permet à l'État d'être remboursé en quelque sorte, ce qui n'était pas le cas avant.
Jacky Bonnemain, avec votre association Robin des Bois, qu'est-ce que vous attendez de plus comme évolution de la législation pour améliorer la sûreté maritime et faire en sorte que ces drames n'arrivent plus?
En Asie, en Afrique, que les États mettent au point des plans de réaction face aux catastrophes et en particulier aux marées noires du type de Polmar qui existe en France. Et aussi, il ne faut pas s'endormir, l'accident qui a eu lieu à Chennai concerne un pétrolier qui avait une double coque et qui n'a pas résisté à une collision avec un méthanier. L'ensemble des écoulements d'hydrocarbures depuis les pipelines en Europe et en particulier en France, un réseau de pipelines très vieillissant, très vulnérable, plus les dégazages dont parlait le représentant du Cèdre, plus les grosses marées noires, ça fait quand même beaucoup de risques pour l'environnement et une contamination lente des organismes marins, des poissons, des crustacés et éventuellement des consommateurs.
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
RFI.
Je ferai n'importe quoi pour du pétrole.
Moi j'aime le pétrole.
April 20th.
20 avril 2010.
11 workers died and
11 travailleurs ont trouvé la mort et 17 ont été sérieusement blessés par une explosion sur la plateforme Deepwater Horizon, située à 80 km des côtes de la Louisiane. La plateforme a brûlé pendant 2 jours et a causé la plus grosse marée noire de l'histoire des États-Unis. Le pétrole et le gaz jaillissant depuis le fond de l'océan. La plateforme Deepwater Horizon extrayait du pétrole à 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique.
Cette fuite, l'exploitant de la plateforme va tenter de la contenir en installant un couvercle. L'anglais BP est l'unique responsable de la catastrophe pour Barack Obama.
Je veux être clair. BP est responsable de cette fuite. BP va payer la note.
Mais Barack Obama, lui, paye la note politique. Car la marée noire intervient au pire moment, trois semaines seulement après une décision controversée.
Je vous annonce aujourd'hui que nous allons reprendre les forages exploratoires en mer pour le gaz et le pétrole. Nous devons exploiter nos propres ressources tout en protégeant notre environnement.
Il avait dit pourtant le contraire avant d'être élu. Il combattait alors les Républicains qui avaient fait du forage leur slogan « Drill, baby, drill ».
Environmental tragedy, the worst disaster in history.
C'est pas du vent. On parle aujourd'hui des marées noires. On vient d'entendre une archive concernant Deepwater Horizon et la spectaculaire explosion de la plateforme pétrolière BP au large de la Louisiane. C'était en 2010. Pendant plus de 5 mois, du pétrole et du gaz se sont échappés des puits de forage de la plateforme sinistrée. Jackie Bonnemain, en tant que président de l'association Robin des Bois, est-ce qu'en cas d'un accident similaire, les moyens d'intervention pour contenir la catastrophe ont évolué pour protéger au mieux l'environnement, d'après vous?
Je ne vois pas de réglementation ou de renforcement de moyens de sauvetage qui permettraient d'être totalement rassurés. Au contraire, nous voyons, même si à l'heure actuelle, il y a un coup de frein, des projets de forage se faire dans des profondeurs importantes et aussi dans des zones encore plus vulnérables, en ce sens qu'elles sont très éloignées des moyens de sauvetage normaux, hélicoptères, remorqueurs. Je veux parler évidemment des zones polaires et aussi la Méditerranée, dans laquelle il y a finalement beaucoup de prospection et d'exploitation en cours ou en projet. Au large du Maghreb, on peut avoir des très désagréables surprises en Méditerranée. Pas croire que la marée noire, c'est quelque chose maintenant d'une catastrophe exotique. Ça peut nous toucher du jour au lendemain sur la Méditerranée et bien entendu en mer du Nord, dans la Manche, dans l'Atlantique, d'autant que si les pétroliers perdent peut-être de moins en moins de pétrole, il y a d'autres navires qui sont gagnés par le gigantisme, puisque maintenant un porte-conteneur de 350 mètres, 400 mètres de long, ça transporte 15 000 tonnes de pétrole de soute pour se déplacer, c'est-à-dire la moitié de ce que transportait l'Erika.
Christophe Rousseau, vous êtes le directeur adjoint du CEDRE. Quels sont les moyens qui sont à la disposition des équipes d'intervention aujourd'hui pour réagir en cas d'accident?
Alors, je vais d'abord réagir directement sur ce qu'a dit Jackie. En effet, actuellement, il y a une relative baisse de l'activité de recherche, prospection, exploration, production. Il y a beaucoup d'endroits où toute exploitation pétrolière a été arrêtée à cause de la crise pétrolière, mais ça n'a qu'un temps, la production va revenir, et à peu près partout on a de la prospection, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, évidemment en Arctique. Alors par contre, pour ce qui concerne des mesures au niveau des plateformes du risque d'éruption, même si c'est vrai qu'on a un problème de réglementation internationale au niveau des plateformes. L'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, elle prend en compte ces plateformes tant qu'elles naviguent. Au moment où elles s'arrêtent de naviguer, on ne sait pas vraiment, à part les réglementations nationales, dans les eaux territoriales ou étendues de ces pays dans lesquels l'exploitation se fait, et la réglementation internationale est faible. Il n'y a pas de...
Ça veut dire que structure. Les réglementations de l'OMI, de l'Organisation Maritime Internationale, ne concernent pas les plateformes pétrolières?
Tant qu'elles naviguent, oui, sont des navires, mais pas tant que, quand elles s'arrêtent pour travailler, non. L'autre chose, c'est de dire que depuis l'accident de Deepwater Horizon, l'industrie pétrolière, l'industrie américaine et l'industrie mondiale ont fait des efforts technologiques énormes pour que, si demain on avait à nouveau ce genre d'accident, on dispose au niveau mondial de 5 ou 6 maintenant systèmes qui permettent d'encapsuler la source de pollution on réagirait au niveau international beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.
C'est pas du vent, on parle des marées noires. Aujourd'hui, on se retrouve dans quelques minutes.
Il y a de cela plus de 30 ans, une société est née. Gabonaise de mère, française de père, elle s'appelle Elf Gabon. Grâce à Elf Gabon et à l'or noir, nous avons eu des hôpitaux, des usines, des routes, des maisons modernes. Cité 50 logements,
Elf Gabon.
Cité savonnerie,
Elf Gabon.
Cité Namina, cité Roger Dutin, cité Marcosin, le musée d'art à Libreville, le centre de recherche médicale, le nouveau boulevard, et même l'orchestre pivot.
Gabon sur RFI. C'est pas du vent, on parle aujourd'hui des marées noires. Le continent africain est aussi et particulièrement victime de ces pollutions massives. Direction le Congo-Brazzaville, qui a connu en 2012 la plus grande marée noire de son histoire. Igor Strauss s'était rendu à Pointe-Noire pour mesurer les conséquences pour les habitants et la biodiversité de la catastrophe.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, ça va très bien.
Vous pouvez vous présenter ?
Oui, je m'appelle Malonda Chanetaliano.
Moi, je suis venu ici pour parler un peu des problèmes de pollution du goudron qu'il y a sur la plage.
Ouais.
Là, je vois le polo, là, vous avez des marques de goudron partout un peu.
Vraiment, il y a du goudron, je ne sais pas, ça provient du large. Donc, on souffre même ici, parce qu'on ne sait pas, là, ça provient d'où. Donc, ça nous pose vraiment tant de problèmes. Vraiment, il y en a plein de tas, presque dans tous les bords, il y en a.
Et ça fait longtemps que ça dure, ça ?
Et ça fait déjà presque un mois et demi que c'est là.
Et du coup, est-ce que ça rend le travail plus compliqué ?
Ça nous rend le travail plus compliqué, plus que même le mot.
Je suis M. Jean-Sylvain Gomabati, président des communautés de pêche maritime artisanale Pointe-Noire-Cuilou. Là, nous sommes en face du port autonome de Pointe-Noire. Et là où nous sommes, là, en ce net moment, vous voyez que nous sommes devant l'échappement du goudron qui est en train de sécher au niveau des plages, des côtes de la zone où nous sommes.
Alors c'est vrai, effectivement, là partout, des petites taches de goudron, donc là, tous les 20-30 cm, il vient d'où ce goudron ?
Bon, mais disons qu'il y a une forte intensité d'exploitation pétrolière en zone maritime. À ce niveau-là aussi, on n'a pas encore eu une information qui pouvait nous dire que non, voilà, c'est telle structure qui est la cause de cet incident. Et là, on nous dit que c'est au niveau donc de l'activité de dragage qui est en train de se faire dans la baie portuaire et qu'il y a un pipe qui est donc une pipe sous-marine et qui a été donc touché par rapport à cette opération de dragage. Vous voyez les filets qui sont là devant vous, c'est noir de goudron. Donc les pêcheurs sont obligés d'acheter du pétrole lampant qu'ils doivent laver leurs filets. Et quand nous sommes au bord de la plage, vous voyez, toutes les personnes qui passent, ils piétinent.
C'est ça, donc, nous, voilà, on marche salir, quasiment voilà, dans le goudron. Hein.
De se salir là, sur le goudron. Donc, le goudron est en train vraiment de nous déranger. Peut-être qu'on n'a pas encore appliqué cette équation de pollueur-payeur, mais il faut quand même qu'on retrouve le coupable pour qu'éventuellement, il puisse s'occuper à régler cette situation là avant que la population n'en tombe malade.
Bon, même nous, on s'inquiète trop là parce que la pollution, quand on voit, vous remarquez au bord de la plage là, c'est rare quoi, on voyait ça avant. Mais ça finissait seulement, on voit ça pendant 2 jours, c'est fini. Mais maintenant là, nous, on ne comprend pas. Au large, là-bas, vous savez, les tas de pétrole, même nous, on déclare, oh, mais comment il y a le pétrole partout? Même nous, les filets, ça gaspille nos filets. Donc, chaque jour, on se nettoie avec l'essence avant de se laver pour partir à la maison.
Mais l'ironie de l'histoire, c'est que l'essence, c'est du pétrole, c'est du goudron.
On ne peut pas faire même 50 ans ou 60 ans, on va mourir parce que ça nous détruit la santé. À la longue, vraiment, ça va vraiment trop détruire le Congo, quoi.
Mais vous pensez qu'on pourra encore vivre de la pêche si ça continue comme ça?
Non, là, on va stopper la pêche. C'est à cause de la pollution. Ça détruit vraiment 100%. Je regrette beaucoup ici, parce qu'on nourrit tout le Congo, hein. Au Nigeria là. Il y a une pollution qui a eu au Nigeria, où même les pêcheurs, les gens des villages, ils pourraient même braquer même les gens pétroliers. Donc c'est un peu ça, j'ai pas dit qu'on va faire ça à la longue, mais il faut pas qu'on arrive à cet obstacle là. Et c'est ce que je déclare quoi.
Un reportage d'Igor Strauss à Pointe-Noire. Et justement, le Nigeria est lui aussi victime du pétrole brut qui se déverse en flot continu dans ses eaux avec plus de 600 champs pétrolifères. Le delta du Niger fournit 40% du total des importations américaines de brut. Chaque année, on dénombre plus de 300 marées noires qui provoquent la perte des terres agricoles, des forêts et des zones de pêche dues à des fuites de terminaux, d'oléoducs, de stations de pompage et de plateformes pétrolières, pour la plupart détenus par des compagnies telles que Shell et ExxonMobil. Jackie Bonnemain, ces chiffres-là dépassent de très loin en termes de volume. L'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon de BP, hein, dont on parlait il y a quelques minutes, dans le golfe du Mexique. Et pourtant, à ce sujet, en ce qui concerne le Nigeria, par exemple, les médias ne se battent pas pour en parler.
Bon, c'est vrai qu'à part RFI et quelques journaux de référence, le sujet reste méconnus. Les compagnies occidentales effectivement ont une part de responsabilité, mais aussi les autorités nigérianes. Le niveau de vie difficile, les tensions sociales, la pauvreté, l'opportunisme de certains petits commerçants non déclarés, disons pompistes, clandestins, qui siphonnent les oléoducs pour se livrer à un commerce parallèle. Il y a une espèce de...
Donc c'est des pratiques en fait où il y a des petits trous qui sont percés dans les oléoducs,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, mais ça se passe aussi en Sibérie, hein, ça se passe aussi en Russie et en Afrique, et en particulier au Nigeria. C'est malheureusement une pratique importante. Bon, l'Afrique souffre vraiment du pétrole parce que l'essence est un bien de consommation presque alimentaire pour les gens. Et il y a très peu de raffineries en Afrique. Le pétrole est puisé en particulier au large de l'Afrique de l'Ouest. Il remonte, il est traité aux États-Unis ou en Europe et il retourne en Afrique sous une forme très polluante, sous une forme très soufrée. Et donc l'Afrique, à plusieurs titres, est vraiment noire par les hydrocarbures.
Christophe Rousseau, avec le CEDRE, vous travaillez en collaboration avec les États africains, justement, pour essayer de résorber ces problématiques?
Alors, nous, on travaille à deux niveaux, je dirais. On travaille dans le cadre de la préparation, dans la plupart des pays francophones africains de l'Ouest, notamment. Nous avons préparé des plans d'intervention pour tous les industriels français qui travaillent dans la zone, à la fois pour ce qui se passe dans les raffineries, les stockages, le travail en mer, etc. Et puis, il arrive que pour certaines pollutions, nous soyons sollicités pour aller aider à la mise en place de techniques de lutte, suivi des chantiers, etc. Enfin, notre métier de conseiller technique en matière de lutte anti-pollution. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, là, c'est un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que le trafic maritime, c'est plus grand-chose par rapport au reste, c'est-à-dire les rejets opérationnels, le quotidien, c'est ça qui est le plus dangereux pour l'environnement. Quand j'étais à l'université, on prenait une grenouille, on la mettait dans l'eau chaude, elle ressortait en se brûlant les pattes, on prenait la même grenouille et on augmentait la température très 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 doucement, elle finissait cuite dans le récipient. Et ben, c'est exactement ce qui nous arrive, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a une pollution accidentelle qui fait réagir tout le monde parce que voilà, c'est violent, tout d'un coup une grande quantité, c'est noir, c'est polluant, etc. Et puis au quotidien, eh bien, on laisse faire ces rejets permanents qui sont le vrai poison de notre environnement.
Avec un véritable cercle vicieux qui se met en place, hein, Jackie Bonnemain, les impacts sont environnementaux, mais ils sont aussi économiques, puisque du coup, c'est la source de travail elle-même qui est menacée.
C'est la pêche, c'est le tourisme.
L'agriculture.
L'agriculture, dans un certain sens, parce qu'il y a un problème très important dont on n'a pas parlé avec Christophe, c'est la gestion des déchets. Et c'est très lent. Hein. On parlait tout à l'heure du Torrey Canyon, c'était le 18 mars 1967.
Il y a 50 ans,
là, il y a 50 ans, le Torrey Canyon se rapprochait de l'Europe du Nord. Il était du côté de Gibraltar ou encore en Méditerranée. Il venait du Koweït. Le monstre s'approchait de nous. Et les déchets du Torrey Canyon ont, pour certains d'entre eux, subsisté en Bretagne du Nord, sur un archipel, sur une île, jusqu'en 2011-12. Sous forme de résidus d'hydrocarbures dans des fosses à ciel ouvert sur une petite île, l'île d'Aire, qui avait été réquisitionnée par le gouvernement français, et les déchets sont restés sous la pluie, 300 tonnes, 400 tonnes, pendant plusieurs décennies. Et c'est seulement il y a 3-4 ans, grâce à Robin des Bois, grâce au Cèdre, grâce au ministère de l'écologie, que les déchets ont été enlevés.
Merci Jackie Bonnemain, merci Christophe Rousseau pour votre participation. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver C'est pas du vent en podcast sur notre page internet www.rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le week-end prochain, vous retrouverez Anne-Cécile Bras sur RFI, même planète, même heure.
Mondoblog,